Chers frères et sœurs, nous connaissons bien cette première lecture, celle du déluge. On sait bien que le déluge, c'est un texte universel qui dépasse le cadre de la Bible, qu'on retrouve dans les littératures de l'Ancien Orient, pour ceux qui ont fait du latin, dans les textes d'Ovid, sur lesquels on a pu transpirer. Et nous avons ici la fin de cet épisode. Et rappelons-nous à quoi est dû le déluge. Eh bien, il est dû à une humanité mauvaise, une humanité qui s'est pervertie et dont Dieu désespère. Il se repent d'avoir fait l'homme. Alors il va sauver une poignée, comme le dira la deuxième lecture. Et puis aujourd'hui, nous est indiqué ce nouveau départ pour l'humanité quand Noé a récupéré cette colombe, puis ensuite elle s'est posée sur cette terre ferme. Et Dieu va à ce moment donner à Noé les mêmes instructions qu'il avait données à Adam. Croissez et multipliez-vous. Il va de la même façon bénir la création renouvelée. Il va plus encore faire une promesse. Il n'y aura plus jamais de déluge d'eau. Plus encore, l'ordre du monde sera fixe, établi. Vous le souvenez ? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Un ordre parfaitement réglé, que rien ne vient altérer, et puis, pour couronner le tout, l'image la plus populaire, l'arc-en-ciel. Et les pères interprétaient ceci comme le fait que Dieu a déposé les armes et que désormais il a suspendu son arc qui devient uniquement le signe de l'alliance et non plus du fait que Dieu est en guerre contre l'homme. Voilà, un Dieu provident veille sur l'ordre du monde. Que c'est beau. Bref, un paradis renouvelé. Mais il y a un problème. C'est que ça colle pas du tout avec notre expérience du monde tel que nous l'avons. Qu'est-ce que c'est que notre expérience du monde? Eh bien, c'est que les déluges se reproduisent. Je pense à plusieurs faits précis. Un fleuve en Chine, le Yangtze si je ne me trompe pas, qui change son lit et qui change d'estuaire, qui se déplace de 500 km et qui, moyenne en quoi, va noyer toutes les localités qui se trouvent sur son passage. Ce terrible tsunami du début du XXIe siècle, avec plus de 300 000 morts. Ce terrible tsunami aussi, qui a donné lieu au drame de Fukushima. Alors qu'est-ce que cela veut dire, sans parler des déluges de feu, comme les appelle également la Bible? Où est l'ordre? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la Bible nous trompe? Est-ce que la Genèse est mensongère? Les paroles mêmes du psaume, louant cet ordre cosmique, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'arc-en-ciel n'est pas qu'une espèce de mensonge projeté dans le ciel? C'est une vraie question, parce que c'est là où nous pouvons suivre soit la voie chrétienne, soit une autre voie de l'immaturité. Chers frères et sœurs, l'ordre, désormais, a un autre sens. Ne rêvons pas d'une espèce d'harmonie cosmique où il n'y a plus de souffrance, plus de cataclysmes, plus de désordre. Ça, c'est des paradis que parfois des sectes veulent nous faire accroire, mais qui n'existent pas. Car, disons-nous le bien, le monde peut nous briser. La nature tout entière peut se liguer contre nous. Mais quelque chose ne changera pas, c'est que désormais, Dieu est avec nous. C'est le sens de la tentation du Christ. Qu'est-ce que c'est que ce Christ dans le désert, sinon un Christ en proie à l'hostilité du désert, à cette terre ingrate, à ces chardons qui ne poussent sur la terre après le péché d'Adam? Cette faim et cette soif sont le signe de cette fragilité du Christ à la merci des éléments. Voilà, finalement, d'où renaît l'ordre, c'est que Dieu habite ce désordre. Il y a une autre chose peut-être, c'est que, au milieu de tout cela, au milieu de tous ces malheurs, l'homme garde indéfectible cette conviction qui habitait le cœur de saint Paul. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, ni le feu, ni l'eau, pourrait-on ajouter. Il y a comme une constante, c'est celle de l'alliance indestructible scellée avec Dieu et l'homme. Cette alliance que nous allons célébrer, alliance nouvelle et éternelle, qu'il sera sur l'autel dans un instant. Voilà l'ordre. N'en cherchons pas d'autres. Voyez, à ce stade-là, nous avons le choix d'être comme le mauvais larron sur la croix, qui fait choix de l'absurde. Le monde entier s'est ligué contre lui. Les hommes, les éléments maintenant, avec ces ténèbres qui se répandent, ce tremblement de terre au moment de la passion, eh bien, lui reste dans le sentiment, il ne reconnaît pas qu'à côté de lui, le Christ est dans son déluge à lui aussi. Ce n'est pas le choix du bon larron. Lui aussi écartelé sur la croix, mais il a reconnu à côté de lui celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce n'est pas non plus le choix du Christ au moment même où il est sur la croix. Le Christ proclame que Dieu, son Père, est provident, qu'il veille sur lui, bien sûr à travers l'épreuve. En tes mains, Père, et il redit ce mot de Père qui n'est pas dans le psaume, en tes mains, Père, je remets mon esprit. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Eh bien, pour nous qui sommes parfois dans l'épreuve, dans un monde chaotique, il faut nous redire, tout ceci n'est pas absurde. Le chômage que je traverse, cette maladie qui me fait souffrir, qui diminue mes capacités à agir, les tentations peut-être qui s'acharnent contre moi, une tristesse lancinante, un travail pénible, tout ceci a du sens. Tout ceci, je dois le traverser, justement, pour retrouver le sens de cette phrase de saint Paul, « Tout profite au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout profite au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, c'est ici peut-être que l'attitude d'un grand philosophe et psychiatre peut nous aider, c'est Viktor Frankl. Vous avez peut-être entendu parler de ce psychiatre juif qui a été en camp durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a dit « De cette expérience concentrationnaire, je vais tirer une philosophie, voir le sens de mon épreuve à travers tout cela, voir le sens de cette horreur. » Il a développé ce qu'on appelle la logothérapie, je me permets d'en parler parce que Cet homme juif avait une foi profonde dans son judaïsme, mais également il était extrêmement proche de l'évangile qu'il comprenait de manière très fine. Je vous cite juste un des épisodes qui m'a marqué quand on lit un de ses livres. Un jour, il reçoit un vieux monsieur, veuf, qui se lamente d'avoir perdu sa femme et qui ne veut plus se lever le matin. Et il va entamer une conversation. Et petit à petit, il va faire comprendre à cet homme, mais qu'est-ce que vous auriez souhaité pour votre femme? Qu'elle soit heureuse? Oui. Qu'est-ce qui pouvait le plus l'affliger, l'attrister? Eh bien, c'est de rester seule. Vous voyez, eh bien, vous, en acceptant de la laisser partir la première, vous lui avez épargné de rester toute seule. Voilà le sens de votre épreuve. Mais il a fallu y réfléchir pour voir que Dieu, à travers tout cela, ne nous abandonnait pas. Dernière chose, frères et sœurs, il faut pour tout cela une vraie sagesse qui ne s'acquiert pas comme ça. C'est une sagesse qui s'acquiert au fur et à mesure que les épreuves sont traversées. Cette sagesse qui nous adapte au monde tel qu'il est et non pas tel que nous le rêverions. C'est le sens des tentations du Christ. Au terme de cette épreuve, comment est le Christ? Il est serein. Il est en paix. Il est au milieu des bêtes sauvages, nous dit l'Évangile. Tout ce qui pouvait le dévorer, désormais, est mis à distance ou s'est apaisé. Comme c'est important. Le Christ, par sa fermeté, a fait fuir le démon. Parce que le démon fuit quand nous lui résistons, nous dit l'Écriture. Souvenez-vous peut-être de cette petite Mariam de Jésus crucifié, cette petite moniale de Terre Sainte. Le démon avait obtenu de Dieu de pouvoir la posséder. Et le démon avait investi son corps. Mais il avait trouvé tellement de pureté, de sainteté dans cette personne qu'il avait fui. Être en elle devenait un châtiment supplémentaire. Eh bien voilà, quand nous nous sommes donnés à Dieu, le démon, peu à peu, s'enfuit loin de nous. Les épreuves sont dominées. C'est vraiment, chers frères et sœurs, le sens de ce carême. Nous allons vers la terre promise de la résurrection. Le Christ va passer une ultime grande épreuve, celle de sa passion, qui définitivement va mettre le démon hors jeu et les puissances infernales vont être neutralisées. Le Christ sera libre et heureux. C'est ce que nous dit la Bible en nous disant « Le Christ ressuscité désormais ne meurt plus ». Eh bien, cela vaut aussi pour nous. Nous avons à ressusciter. Alors certes, c'est une résurrection en germe. Mais si nous passons l'épreuve, si nous ressuscitons, nous ne mourrons plus au sens où le monde ne nous broie plus. Chers frères et sœurs, on appelait autrefois les ascètes du désert les ressuscités, justement à cause de cela. Alors n'oublions pas ce magnifique souffle de la spiritualité de l'Orient. Visons, au terme de ce carême, d'être des ressuscités et que cela se voit sur notre visage et que le monde en soit meilleur.